Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Lecture par tous. Alors, Lecture par tous, nous sommes nombreux dans le studio et nous sommes submergés de livres rouges, de petits livres rouges. Non. N'allez pas croire qu'il s'agit du fameux petit livre rouge. Non, il s'agit des livres rouges des éditions Latinoir. Qu'est-ce que c'est Latinoir ? Attendez. Tout de suite, on vous en dit plus. Donc, nos invités sont nombreux aujourd'hui. Alors, je vais commencer par Rachel Millot. Bonjour Rachel.
Bonjour tout le monde.
Rachel qui fait partie de notre association Les Collecteurs, elle est même la présidente, qui est une lectrice littérature espagnole et hispanique passionnée, l'Amérique latine, le Mexique entre autres, une spécialiste du Mexique, mais pas seulement. Laurence Holvoet, bonjour Laurence.
Bonjour tout le monde.
Laurence, aussi lectrice, aussi collectrice, qui aime bien lire et partager ses lectures, passionnée de littérature hispanique aussi, et de temps en temps aussi traductrice, on va l'évoquer tout à l'heure, de l'espagnol ou de l'anglais. Voilà. Antoine Morey, bonjour Antoine.
Bonjour.
Alors Antoine, plein d'activités, multicartes j'ai envie de dire, écrivain français qui écrit en espagnol, de la littérature sud-américaine quasiment, grand spécialiste passionné de littérature sud-américaine.
Plus passionné que spécialiste.
Voilà, qui fait régulièrement le voyage là-bas. Et qui a, avec toutes ses rencontres avec des écrivains de là-bas, a eu l'idée d'un projet qu'il a soumis à Jacques Aubergy. Bonjour Jacques Aubergy.
Bonjour.
Vous êtes notre invité principal, c'est pour ça que je vais vous garder pour la fin. Jacques Aubergy, éditeur, libraire sur Marseille, les éditions Latinoir, spécialisées, on commence à s'en douter avec ce que j'ai dit, sur les littératures sud-américaines. Alors, Jacques Aubergy, tout simplement, qui êtes-vous et comment vous en êtes venu à cette idée de créer les éditions La Librairie, je ne sais pas lequel a été en premier, Latinoir.
Bonjour et merci de cette invitation. Latinoir, c'est une collection d'abord chez un éditeur à Marseille qui s'appelait, et malheureusement il n'existe plus, Les Cahiers du Sud, puis Les Cahiers, et qui avait décidé et qui a fait un beau catalogue, un beau fond de romans policiers noirs publiés à Marseille, mais pas forcément polar marseillais, puisque c'était la mode lorsqu'il a commencé. Donc moi, je suis rentré du Mexique en 2005, j'avais l'idée de ouvrir une librairie, j'avais pas forcément l'idée, même si c'était un peu quelque chose qui me titillait, de traduire, parce que je suis aussi, je suis surtout traducteur finalement, et d'ailleurs aujourd'hui je ne suis plus libraire, j'ai arrêté cette noble activité qui m'a beaucoup servi, et je ne suis plus qu'éditeur et traducteur. Voilà, alors j'ai vécu longtemps en Amérique latine. J'ai vécu très longtemps, très longtemps, on peut dire très longtemps, parce qu'on a dépassé les 10 ans, 12 ans exactement, au Mexique. Et là-bas, bon, c'est un peu compliqué à raconter, un peu trop long, mais disons qu'on m'a poussé à traduire un livre. Et puis finalement, ça m'a beaucoup plu. J'ai dit à la personne, en l'occurrence, l'écrivain Paco Ignacio Taibodos, que c'était fabuleux, fascinant, mais que ça devait être une torture si le texte ne nous plaisait pas. Et avec son franc-parler, son esprit de répartie, il m'a dit « tu n'as pas le choix, il faut que tu sois éditeur, comme ça tu choisiras toujours ce que tu veux traduire ». Voilà. Il m'a dit tout de suite, immédiatement, « ne fais pas ça », parce qu'il l'avait fait et il savait que ça se passait difficilement. Voilà. Donc, quand je suis arrivé à Marseille, avec ses copains de Les Cahiers, je leur ai proposé de lancer une collection qui s'appelait donc « Latinoir ». Ça n'a rien à voir, ce mot, avec « latin » et « noir », je le dis tout de suite, parce que souvent les gens font le rapprochement. Je cherchais un mot qui, comme je suis quand même, ce qui m'intéresse le plus dans la littérature, c'est la poésie. Je voulais que le nom de la maison d'édition soit un mot qui ressemble à un mot, mais qui n'existe pas. Voilà. Et un « latinoir », ça pourrait être quelque chose, mais ça n'existe pas. Voilà.
Donc, aux auditeurs, aux lecteurs, d'imaginer ce que pourrait être un natif noir.
Ah oui, bien sûr. Ce que je peux leur dire, c'est que j'ose espérer, mais j'en suis absolument pas certain, que lorsque je réfléchissais, je cherchais, j'avais dans la tête le mot atinar en espagnol qui veut dire viser juste. Voilà. Mais ça, c'est tout à fait de l'ordre de la supposition. Voilà.
Alors, Latinoir, maison d'édition créée en 2006, hein, c'est ça ? Alors, elle publie des auteurs latino-américains traduits en français, mm-hmm. mais pas que. Alors, ma première question, ça va être quand même sur la traduction, sur les livres qui sont traduits de l'espagnol vers le français. On voit que apparaît d'abord la traduction en français, puis dans la deuxième partie, le texte en langue originale. C'est ça ?
Oui, non, mais ça, oui. En fait, ça, c'est, je suppose que c'est le pas que, ça, c'est la partie...
Non, ça, c'est la première partie, non,
en fait,
de ma question.
En fait, depuis 5-6 ans, j'ai décidé de publier de plus en plus... des formes brèves de la fiction qui sont complètement ignorées en France par les éditeurs, les libraires, enfin le livre en général, parce qu'on ne peut pas gagner de prix littéraire avec ce genre-là. Et il se trouve qu'en Amérique latine, c'est un genre majeur. C'est un genre mineur quant à la forme, mais quant à l'importance, c'est un genre majeur. Ouais, on devient écrivain si on sait écrire ce qu'on appelle toujours là-bas, très proprement, des contes et non pas des nouvelles comme en France, comme ça on met tout là-dedans. Dans ce mot qui ressemble, qui est une espèce de fourre-tout. Lorsqu'on fait ce genre de publication, c'est la moindre des choses, c'est comme la poésie, de mettre le texte, parce que ce sont généralement des textes brefs, courts, de mettre le texte en espagnol, en langue originale, en l'occurrence espagnole, à côté.
D'accord. Voilà. Donc je m'intéressais d'abord aux auteurs latino-américains. Mmh. Ensuite, je pense qu'on viendra aux auteurs qui ne sont pas latino-américains. Et j'ai relevé des auteurs phares qui, pour moi, sont les auteurs phares. Alors, je ne sais pas, tu nous diras si... Alors, j'en ai relevé 5. Donc, Paco Ignacio Taibo Dos, Juan Hernández Luna, mmh. Sébastien Routes, mmh. Elena Poniatowska mmh. et Juan Gelman. Alors, est-ce que tu veux nous parler de ces auteurs ou est-ce que tu veux en ajouter d'autres ou parler de certains de ces auteurs ?
Simplement, Sébastien Routes, c'est un Français. Hein. Oui. Sébastien Routes, c'est un Français qui est professeur de littérature latino-américaine, qui était le seul auteur français que j'avais publié, et qui a écrit une thèse sur Paco Ignacio Taibo Dos, qui lui, effectivement, est un écrivain né en Espagne, mais mexicain. Et c'était la moindre des choses que je le publie, puisque c'est à cause ou grâce à lui que j'ai créé cette maison d'édition. Il y a Juan Gelman, bien sûr, il y a Elena Poniatowska, mais il y a aussi Vicente Leñero, qui est un très grand écrivain mexicain, écrivain, scénariste, journaliste. Il y a d'autres grands écrivains aussi argentins, comme Mempo Giardinelli, qui a eu le prix Romulo Gallegos. Il y a Sergio Ramírez, qui est un écrivain nicaraguayen, récemment pris Cervantes.
Donc le catalogue est bien étoffé, c'est ce que je voulais montrer aussi.
Oui, mais disons qu'il y a, il y a effectivement des auteurs de référence. Ouais.
Mm-hmm. Et je voulais savoir comment tu découvres tes auteurs. Est-ce que tu travailles avec des agents littéraires ?
Oui, je travaille avec des agents littéraires.
Donc ça m'intéressait parce que c'est un nouveau métier en France. Peut-être, non.
Si les éditeurs le veulent bien, ça sera un nouveau métier. C'est pas un nouveau métier, c'est un métier qui n'arrive pas à s'établir parce que les éditeurs français n'en veulent pas. Ah ouais. Or, dans tous les pays du monde, les écrivains ont des agences, ce qui est tout à fait normal parce qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper des contrats, des paiements, etc., etc. Et moi, il se trouve que travaillant avec des écrivains latino-américains, pour la 80% des livres que j'ai publiés, j'ai des contrats avec des agents. Alors c'est assez rigolo parce que je suis un tout petit éditeur, je dépasse après à peine la microfiction, mais j'ai des contrats avec Balcells, qui est la grande agente du Boom, qui a publié Garcia Marquez, etc. Ouais. Ou maintenant, Willy, qu'on surnomme le Chacal, et qui est l'agent de Bolaño.
Voilà. Voilà, c'est intéressant. Alors, quelles sont les actualités de Latinoir ? Quelles sont les dernières parutions ? Je pense qu'il y a pas mal de choses.
Alors, les dernières parutions, c'est deux livres de jeunes auteurs, un Argentin et une Péruvienne. L'Argentin a été finaliste il y a 2 ans du prix de Comte Garcia Márquez, qui est un prix très important, qui a maintenant 6-7 ans. Ce sont donc des histoires brèves qui se passent dans l'intérieur, en l'occurrence de l'Argentine, pour l'auteur argentin. En ce qui concerne la Péruvienne, c'est quelque chose d'assez... J'ai trouvé ça très intéressant. Elle aussi, elle a un petit label. Elle a fait partie de la sélection des auteurs de moins de 39 ans qui sont réunis à Bogota tous les 2 ans. Claudia Julio Donoso, l'écrivain argentin s'appelle Federico Falco. Et elle, alors, elle a une écriture extrêmement intéressante, un peu inspirée de son compatriote Ribeiro. Des fois, on retrouve un peu des... On peut dire qu'on peut retrouver, mais je ne crois pas que ça soit une grande inspiration chez elle, de Cortázar. Et elle a elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle vit dans la ville la plus au nord de la Norvège. Et donc, elle raconte des histoires tout à fait péruviennes, puisqu'elle est de Lima, fille d'équatorien et de chilienne, si je me souviens bien. Et en même temps, elle parle de sa vie dans cette ville qui est au nord de la Norvège, où il fait un froid.
Donc on a les littératures sud-américaines scandinaves.
Scandinaves, n'exagérons pas, mais nordiques, oui, on peut dire. Enfin, là, c'est un cas un peu exceptionnel. Et puis, il y a deux collections que j'ai... J'ai ouvert la maison d'édition à deux initiatives qui sont des collections. Une, c'est quelque chose qui s'appelle Université Populaire. C'est professeure de philosophie, Annick Stevens, qui est une activiste dans la mesure où elle enseigne la philosophie de façon très populaire. Et elle avait déjà travaillé, puisqu'elle avait traduit un abécédaire d'urgence de l'anarchie d'un poète colombien qui s'appelle Juan Manuel Roca, un livre qui avait été écrit par à quatre mains, avec un marionnettiste, un livre très intéressant qu'on a publié il y a 2-3 ans. Et elle a aussi publié, chez nous, là, le troisième livre dans la collection de poésie. Du coup, on parle de la collection de poésie que j'ai lancée avec une auteure nicaraguayenne, Claribel Alegría. Et donc, je la connaissais. Elle a ce matériel, donc ces cours qu'elle donne, ces monographies qui étaient jusqu'à présent parlées, qu'elle a écrites. Alors, la première, c'est sur Nietzsche. La deuxième, c'est sur Aristote. L'autre collection, c'est le deuxième français que j'ai publié récemment, qui s'appelle Henri-Frédéric Blanc, qui est un écrivain qui a plusieurs livres chez Actes Sud, qui a lancé avec un ami à lui une collection qui s'appelle Mère de A. Donc c'est plutôt du pamphlet. Le premier, c'est Mère de Shakespeare. Enfin, ils sont sortis en même temps, Mère de Shakespeare et Mère de Duchamp. Voilà. Donc je trouve ça intéressant. Et je les ai... En fait, c'est plus... Ce sont des collections que j'héberge. Chaque responsable est vraiment complètement autonome.
Et dont la couverture est jaune, c'est ça?
Oui, la couverture est jaune.
Voilà,
ça, c'est
pour distinguer du rouge.
Ah, oui. Tous les livres de Latinoir ne sont pas des petits livres rouges.
Non.
Alors, on évoquait tout à l'heure un projet qu'avait soumis à Antoine autour de... un recueil de nouvelles avec plusieurs auteurs, si j'ai bien compris. Bon, je ne sais pas, peut-être est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus, parce que ça aboutit récemment, ce projet-là, d'après ce que j'ai compris.
Oui, juste pour dire, je laisse la parole à Antoine par la suite, juste pour dire qu'effectivement, c'est né ici, puisque c'est grâce à la rencontre, à l'invitation de Rachel.
On est content.
qui m'avait invité pour parler au club de lecture. J'ai rencontré Antoine. Et il se trouve que j'avais déjà fait quelque chose qui ressemblait un peu à ça. Je vais depuis 6 ans en Amérique centrale pour participer à une rencontre d'écrivains. Et la première année, j'ai eu l'idée de proposer à l'instigateur de cette rencontre, l'écrivain Sergio Ramírez, dont je parlais tout à l'heure, de choisir 6 auteurs de l'intercontinent, on peut dire, du Panama au Guatemala, Et chacun m'envoie 3 textes et je les choisis, traduis et publie. Et on fait ça depuis 6 ans. Donc ça ressemblait, c'est peut-être un peu ce qui a donné l'idée à Antoine, ça ressemblait à ce qu'on a fait. Sauf que là, sur l'Uruguay, il n'y a pas l'événement qui justifie, mais enfin, il a trouvé d'autres... Il va vous l'expliquer.
Alors, à la découverte de la littérature uruguayenne pour les lecteurs, Antoine.
Oui, il se trouvait que je fréquentais régulièrement l'Uruguay depuis quelques années, depuis 2013, et je bloguais sur cette littérature, et j'avais commencé à rencontrer certains auteurs quand a eu lieu cette rencontre ici à Montpellier avec Jacques, et j'avais cette idée un peu fumeuse d'une anthologie bilingue de littérature uruguayenne. Et donc, quand on en a parlé, Jacques a dit d'accord. Et voilà. Et juste après, je suis retourné en Uruguay. Et donc là, j'ai fait le travail de terrain, entre guillemets, recontacter les auteurs, faire des présélections de textes, envoyer les présélections à Jacques pour qu'il confirme tel ou tel. Et voilà, c'était très intéressant. Et finalement, donc, il y a quelques mois, cette anthologie est parue. Et vraiment, ce qui est vraiment réjouissant en plus, c'est que cette anthologie, elle fait des petits, puisque ça a été l'occasion de publier un bref roman qui s'appelle Peaches, d'un des auteurs qui était dans l'anthologie. Ça a été l'occasion de renouer en lui demandant une préface avec Raphaël Courtoisie, qui est un important écrivain uruguayen que Jacques avait déjà publié par le passé. Donc on a renoué avec lui avec cette occasion. Donc là, il y a du coup un nouveau roman de Raphaël Courtoisie qui vient de paraître chez Latinoir, etc. Donc c'est une dynamique très intéressante. Et là, on part sur d'autres projets. Enfin, personnellement, je suis très, très heureux de cette rencontre.
Alors, en fait, il y a autour de cette table, il y a 3 traducteurs de l'espagnol, vous-même, Jacques Aubergy, puisque vous avez commencé plutôt comme traducteur, comme éditeur.
Ah oui,
Laurence, qui traduit aussi, qui a traduit de l'espagnol, de sud-américain pour les éditions Yovana aussi. Et puis Antoine, qui fait aussi des traductions. Alors, comment ça se répartit? Comment ça s'organise, ce travail de traduction? Parce que c'est le traducteur qui vient avec son auteur, qui arrive avec son texte. C'est vous qui choisissez, qui essayez de trouver un traducteur adapté. Est-ce qu'il y a des traducteurs adaptés plutôt à tel style d'auteur? Parce que les auditeurs, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on comprend très bien. Comment ça se gère, cette question de la traduction?
Je crois qu'il y a plusieurs systèmes, plusieurs façons, plusieurs méthodes, plusieurs situations surtout. C'est vrai qu'il existe des personnes qui sont souvent des enseignants, des universitaires, qui ont une passion pour un auteur, pour un texte, et qui le traduisent et le proposent. Il y a aussi des éditeurs qui ont leur traducteur et qui ne bougent pratiquement pas de ces traducteurs-là, qui leur ont assuré une satisfaction auprès du public, des auteurs, lorsque les auteurs connaissent la langue traduite. En ce qui me concerne, moi, pour des raisons d'abord de passion, je traduis pratiquement tout, et des raisons économiques et financières, c'est qu'une traduction, c'est cher, il faut payer correctement, et c'est assez bien payé si on applique les barèmes qui doivent être appliqués. Hein. Et souvent, d'ailleurs...
Suggérez-vous qu'ils ne le sont pas toujours?
Je ne suggère pas. Je non, suggère pas. Je veux dire par là que certaines fois, les traducteurs sont maltraités sur ce plan-là et que ça me paraît... ça n'est pas excusable. Ça pourrait à peine être compréhensible parce que c'est vrai que lorsque vous donnez sur un texte de 200 pages entre 2000 et 3000 euros à un traducteur, c'est... Quelquefois, même pas le triple de ce que... Enfin, c'est même plus du triple que ce que vous allez donner à l'auteur en droit, en avance sur droit. Et souvent, cette avance, elle s'arrête à cette avance-là. Donc, non, c'est un cas, la traduction. C'est vrai que c'est un art très difficile, très compliqué. Et la justice là-dedans est toujours très difficile à dire. Maintenant, dans l'ensemble, sur la production française, je pense que l'immense majorité des textes traduits le sont de façon correcte, dans toutes les langues.
Donc ben voilà, donc j'ai eu le plaisir de travailler avec Jacques et Antoine sur ce titre, donc les Historias del Uruguay, Histoire d'Uruguay. Alors moi, les textes me sont arrivés. Je les ai pas choisis et j'ai eu les textes des deux filles. Voilà, il y a six auteurs qui figurent comme auteurs des nouvelles, et donc deux jeunes femmes. Fernanda Trias et Rosario Lázaro Igoa. Et moi, le plaisir que j'ai eu sur ces textes, c'est de découvrir de jeunes auteurs. Voilà, j'avais l'habitude de lire les stars de la littérature latino-américaine. Et là, c'est des auteurs qui sont inconnus en France, on va le dire, peu connu, même si certains effectivement commencent à avoir une certaine notoriété, et donc découvrir une écriture contemporaine, ça m'a carrément ravie. Voilà, des textes et des thématiques qui ne font pas partie des fantasmes que l'on a sur la littérature latino-américaine. Donc pour cela, Latinoir fait vraiment un travail important de découverte de la contemporanéité, je sais pas, de l'Amérique latine, voilà, de sa modernité.
On n'en est pas encore au réalisme magique.
Voilà, on a un peu tourné la page.
Rachel, tu voulais...
Alors, un bon exemple, là, si on a le temps un petit peu de parler de ce roman qui s'appelle Peaches, de Martine Lassalle.
On l'a évoqué tout à l'heure.
Voilà, alors Martine Lassalle, c'est donc un des auteurs qui apparaît dans l'anthologie... Donc, un des six auteurs choisis par Antoine. Et là, donc, c'est un roman. Alors, est-ce qu'Antoine veut nous dire un petit mot de ce que signifie Peaches, notamment en Uruguay? Et puis, parler un petit peu de ce roman, qui est un roman qui montre la réalité, une réalité assez dure. Hein,
oui, Peaches, donc, c'est un mot uruguayen très péjoratif qui désigne... Toutes les strates les plus basses de la société, on va dire. Ça peut être des gens qui dorment dans la rue, ou ça peut être des chiffonniers qui parcourent la ville avec une charrette à cheval pour ramasser du carton ou faire du recyclage d'ordures, etc. Voilà, c'est généralement prononcé avec beaucoup de mépris. Et ce qui est intéressant chez Martine Lassalle, justement, c'est qu'il s'intéresse à cette condition et il en parle... dans un roman très court qui est en fait presque une série de cuentos, une série de nouvelles, parce qu'on peut les lire pratiquement indépendamment les uns des autres, raison pour laquelle il a figuré dans l'anthologie de nouvelles, justement. Et il a plu à Jacques, qui a décidé de publier l'intégralité du texte. Et voilà, donc ça nous raconte l'histoire d'un couple totalement déchu, qui vit en fouillant les poubelles, qui est harcelé par la police, etc. Qui vit dans un bidonville, qui trouve une tête coupée dans une poubelle. Voilà, et c'est terrible. C'est écrit avec, du point de vue du style, avec beaucoup de poésie, là, et c'est terrible. Quelque part très fort aussi d'arriver à faire de la poésie avec des situations aussi graves. Et parfois des envolées à un moment donné, on sort totalement du réalisme, puisqu'ils ont découvert un clavier électronique dans une poubelle, ils se mettent à en jouer, et ils s'envolent au-dessus de la ville de Montevideo. Enfin, c'est très intéressant. Et c'est pour confirmer ce que disait Laurence, il y a vraiment... une nouvelle génération de littérature uruguayenne qui est très inventive et très diverse en plus. Et ça, c'en est un bon exemple.
Alors moi, il y a une question que j'étais en train de me poser, que j'ai envie, je pense, c'est peut-être Jacob Bergy ou Antoine Boreille qui pourraient me répondre. Pour ces jeunes auteurs, on entend que ce sont des auteurs pas forcément reconnus internationalement encore, peut-être même pas tout à fait nationalement. Dans leur propre pays. Est-ce que ça a un impact, la traduction en français, pour eux, pour les faire connaître ? Est-ce que ça se rejaillit ? Parce qu'on a le cas de certains écrivains espagnols qui ont été connus par la traduction, par des succès en France, et qui les ont fait, découvrir aux lecteurs espagnols. Est-ce qu'on a un peu ce genre de phénomène avec les traductions que vous entreprenez ?
Bon. C'est évident que pour le curriculum vitae d'une auteure, avoir une traduction en anglais, en italien et en français, bien sûr, c'est un avantage, même si ça ne donne pas par la suite un succès, des ventes, etc. En plus, il faut savoir qu'en Uruguay, c'est un des rares pays francophiles qui existent dans le monde, avec le Mexique, où il y a une admiration pour la culture et la littérature, et en plus, il y a des origines françaises ou franco-uruguayennes assez célèbres. Superviel, etc.
L'Autre et Amont,
dont le surnom.
Deux auteurs de taille dans la littérature française qui sont uruguayens.
Absolument. L'Autre et Amont, dont le surnom. Le surnom qu'il a, c'est l'autre est à Mont, c'est-à-dire qu'il est à Montevideo. L'autre est à Mont, c'est son.
Et Jules Laforgue.
Et Jules Laforgue, bien sûr.
Ah, Jules Laforgue, je l'avais pas en tête.
Hein. Jules Laforgue aussi, bien sûr. Non, c'est donc il y a une production importante franco-uruguayenne, uruguayo-française, depuis la fin du 19e jusqu'au milieu du 20e siècle. Maintenant, ça existe un peu moins, mais c'est ancré. En Uruguay, c'est forcément quelque chose d'important.
Oui, de pouvoir afficher « je suis traduit en français », mais c'est pas rien.
Dans les autres pays aussi. Oui. Ça reste une référence importante dans une présentation, un CV, etc.
Alors, nous arrivons au bout de notre émission. C'est toujours trop court. Il y a toujours plein de questions qu'on n'a pas pu poser, plein de sujets qu'on n'a pas pu aborder. Alors, les projets en cours, là, on a évoqué plein de nouveautés. Vous trouverez tous les, j'imagine pour nos auditeurs, on mettra le maximum de détails sur le site, un renvoi vers le site de Latinoir, pour que vous puissiez découvrir toutes ces références. Alors, qu'est-ce qu'il y a en projet actuellement ?
Alors, avant de parler du projet, je voudrais faire une petite rectification sur les nouveautés. J'ai oublié de parler d'un livre très important qui s'appelle Sévaline, d'un auteur très important aussi qui s'appelle Rodrigo Reyros, qui a été jusqu'à présent toujours publié chez Gallimard. Et là, cette fois, il a bien voulu publier une deuxième fois avec moi.
Du coup, je peux profiter de l'occasion parce que je l'ai lu cette nuit.
Ah bon, d'accord. D'accord.
J'avais assisté à la rencontre avec cet auteur qui a eu lieu à la Géosphère. Ouais. Voilà. Et donc, on me dit qu'il est trop tard, donc je ne vais pas vous lire.
Non, non, tu ne peux pas faire une lecture, mais tu peux en dire quelques mots.
Voilà, Sévaline, effectivement, c'est une jolie histoire qui tourne autour des livres. Après. Voilà, carrément. Donc, c'est une histoire d'amour, et d'amour des livres, tout d'abord. Voilà, donc, ça pourrait être un petit étendard pour les collecteurs, parce qu'effectivement, ils racontent ce qu'ils...
Oui, tu me montrais un extrait tout à l'heure.
Il y avait des choses qui sont...
Des déclarations d'amour au livre, et à la lecture, tout à fait intéressantes.
Ah oui, non, c'est un petit bijou, à mon avis, et vraiment, ça vaut le... C'est un petit bijou parce qu'il fait 100 pages, et je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai pu le publier. L'autre livre dont je voudrais parler, qui est aussi une nouveauté, c'est un livre qui est publié par une Française, mais qui concerne l'Amérique latine, puisque c'est Haïti. Ça s'appelle Séisme. C'est une chronique. C'est la chronique de son histoire, de sa vie, où elle a voulu adopter deux enfants qu'elle n'a pas pu adopter, et donc parce qu'ils ont été tués par le tremblement de terre, et elle est repartie en adopter deux autres. Elle écrit ça, c'est assez beau. Quant aux nouveautés, au projet, peut-être que je peux revenir pour en parler.
Voilà, je pense qu'on arrive en bout d'émission. Donc, vous revenez quand vous voulez pour nous parler des nouveautés de Latinoir. Merci Jacques Aubergy, merci Rachel, merci Laurence, merci Antoine de votre participation, merci à Lucille, à la technique, et rendez-vous autour d'autres livres rouges dans une prochaine émission de Lecture par tous. Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.